Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique, les coups d'État en Afrique, la modification du mandat présidentiel, l'alternance violente au pouvoir politique, c'est parmi les changements anticonstitutionnels sur notre continent. Nous en parlons dans le magazine de promotion des droits et devoirs, droits et citoyenneté, à travers une conférence scientifique sur ces changements anticonstitutionnels à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Un débat très animé s'en est suivi sur l'origine réelle de la constitution congolaise, les causes des changements anticonstitutionnels et le remède. Pourquoi ces changements de régime en Afrique sont anticonstitutionnels? Est-ce que notre démocratie est en péril? Nous allons le découvrir tout à l'heure avec les initiés de la Constitution, professeurs constitutionnalistes de l'Université de Kinshasa et de la République de Côte d'Ivoire.
Droit et citoyenneté est coordonné par Jeff Ngoï Moulonda et présenté avec Niklet Kayeye.
Sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele. Bienvenue à tous.
Adolphe Moulikos, Massissa,
changements anticonstitutionnels des régimes en Afrique.
Qu'est-ce qu'on entend par les changements anticonstitutionnels des régimes en Afrique?
Le professeur André Mbata de la faculté de droit de l'UNIKIN et le professeur Francis Komelège de l'université de Cocody en Côte d'Ivoire expliquent ces changements.
Forme des changements concernant le gouvernement, le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Donc le simple refus pour le gouvernement en place de remettre le pouvoir au candidat ou au parti qui a gagné les élections. Dernière forme de changement constitutionnel de gouvernement, c'est l'amendement ou la révision des constitutions ou des changements juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Donc le fait d'amender, de réviser la constitution dans un sens qui porte atteinte à l'alternance, c'est la cinquième et la dernière forme de changement constitutionnel de gouvernement. L'Union africaine et les changements inconstitutionnels de gouvernement. En un mot, l'Union africaine criminalise les changements inconstitutionnels de gouvernement. L'Union africaine prévoit même des sanctions en cas de changement inconstitutionnel de gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest qui était présentée comme un modèle. L'Afrique de l'Ouest qui nous avait inspiré. Souvenez-vous de la conférence des forces vives du Bénin. Pour nous, c'était un modèle. Et la conférence des forces vives au Bénin avait inspiré plusieurs Africains dans plusieurs autres pays, notamment la RDC, le Zaïre à l'époque. Nous avons eu droit à notre conférence nationale souveraine, qui compte encore beaucoup de nostalgiques parmi nous. Au Congo-Brazzaville, au Tchad, plusieurs pays ont suivi ce qu'on appelait le modèle. Et lorsqu'on parle du modèle, je crois mes pensées vont vers notre collègue que le doyen connaît très bien, qui croupit actuellement dans une prison au Bénin. C'est notre collègue, le professeur Joël Aïvo, ancien doyen de la faculté de droit de Calavi au Bénin, qui se trouve depuis maintenant plus de 3 ans en prison et qui a écrit abondamment, qui nous présentait le modèle béninois. Malheureusement, celui-là qui présentait le modèle est actuellement victime de ce qui n'est plus un modèle parce qu'il a été emprisonné pour ses idées. Donc nous avons été inspirés par l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Niger. Donc, nous, en Afrique centrale, nous étions inspirés par le modèle que présentait l'Afrique de l'Ouest en termes de transition démocratique. On a parlé du printemps de l'Afrique, et le printemps de l'Afrique, on regardait souvent vers l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, au moment où nous parlons, le constitutionnalisme, la démocratie et l'état des droits sont en péril dans cette partie du continent. Nous en avons pour preuve les derniers coups d'État intervenus au Mali, le Niger en est sorti, mais tout récemment, vous avez aussi la Guinée-Conakry, et tout dernièrement, ce cycle de coups d'État au Burkina Faso. Donc, le constitutionnalisme et la démocratie sont actuellement en péril. Mais je voudrais revenir sur un point. C'est que les changements constitutionnels de gouvernement, d'après la distinction que j'ai donnée tout à l'heure, ils ne se résument pas au coup d'État. Et si je dis que le constitutionnalisme, la démocratie et l'État de droit sont en péril en Afrique de l'Ouest, mais ce n'est pas un cas dans plusieurs autres pays. On peut applaudir par exemple la transition démocratique au Kenya, un pouvoir qui s'en va, qui cède à un autre. Et ça, c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique de l'Est. En Zambie, un pouvoir qui passe d'une main à l'autre. Et lorsqu'on parle de 2 mandats, c'est 2 mandats constitutionnels. Voilà un peu l'exemple qui nous vient de l'Afrique anglophone, qu'on m'accuse souvent de vanter l'Afrique anglophone au détriment de l'Afrique francophone. On m'accuse parfois de préférer la colonisation britannique à la colonisation française, mais je crois que les coups que nos amis français sont en train de subir en Afrique de l'Ouest me donnent quelque part raison. Donc là où il y a évolution d'un côté, mais de l'autre, on n'est pas en train d'évoluer. On est en fait en train de reculer. En Afrique de l'Ouest, c'est un pas en avant et deux pas en arrière. Mais il n'y a pas que les coups d'État. L'Afrique centrale également n'est pas totalement épargnée. L'Afrique de l'Est, lorsque vous voyez un chef d'État qui change la constitution pour s'attribuer un troisième mandat, mais on a des problèmes. On a des problèmes. Parce que lorsque la constitution prévoit deux mandats, il faut s'en tenir là. Il faut s'en tenir là. Malheureusement, vous aurez toujours des intellectuels, vous aurez toujours des juristes pour... on l'a vu même au Burkina Faso. Nos amis sont là pour vanter, essayer de justifier ce qui me semble injustifiable. Les gouvernants doivent respecter les constitutions de leur pays. Et lorsqu'on a dit deux mandats, c'est deux mandats. Et je suis heureux que chez nous, notre président a été clair, il est clair. La Constitution prévoit ses deux mandats, il va chercher un deuxième. Parce que ça, c'est permis par la Constitution. Voilà donc, monsieur le doyen, les quelques réflexions, les quelques remarques que je voulais donner sur ce sujet. Mais voilà, je voudrais terminer par ceci. Une telle conférence aux universitaires, aux étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, quel est son objectif? Vous savez, la démocratie ne peut pas se développer. C'est Claude Leclerc qui le disait. La démocratie, l'état de droit, le constitutionnalisme ne peut pas se développer sans l'esprit critique. Dans les universités européennes, il y avait également un cours très intéressant qu'on appelait le cours dans les facultés de droit au niveau de DS ou de DA, le cours de construction européenne. Je crois la présence de l'ambassadeur Kalis Mbali, qui a beaucoup aussi à nous offrir dans ce domaine-là, on doit voir dans les facultés de droit des universités africaines un intérêt porté sur les instruments régionaux africains, sur la construction de l'Afrique. L'Afrique que nous voulons, l'agenda de l'Union africaine 2063, une Afrique prospère, une Afrique de l'état de droit et du constitutionnalisme, cette Afrique-là ne verra pas le jour sans l'engagement des universitaires que nous sommes. Les facultés de droit des pays membres de l'Union africaine doivent consacrer suffisamment de temps à voir ce qui se passe en Afrique. Au lieu d'être tourné éternellement vers l'Occident, au lieu de considérer les Occidentaux comme étant des maîtres, lorsque je dis que dans l'acte constitutif de l'Union africaine, l'Afrique innove, qu'est-ce que ça signifie? Le constitutionnalisme, la démocratie et l'état de droit ne sont pas une invention occidentale. On nous l'avait appris ici et dans plusieurs universités, mais il faut le dire. Mais cette France-là, qui avait érigé le chapeau, mais elle n'était pas démocratique. Mais cette Grèce antique, et c'est Mahmoud Mamdani qui le dit aussi bien, dans cette Grèce antique présentée comme le modèle de la démocratie, mais où la citoyenneté n'était reconnue qu'à une infime minorité, en quoi est-ce qu'elle était démocratique, la Grèce antique? Donc le constitutionnalisme, l'état de droit et la démocratie ne sont nullement une invention occidentale. Ils appartiennent également à l'Afrique. Ils sont également faisables sur le continent africain. Et les facultés de droit et les juristes doivent jouer un grand rôle dans la promotion du constitutionnalisme de l'état de droit dans leur propre pays et sur le continent africain.
Les changements anticonstitutionnels des régimes en Afrique.
D'où nous viennent les violences dues à ces changements?
Pour le professeur Mbata, tout est parti de l'Afrique de l'Ouest qui nous avait pourtant bien inspirés avec les conférences souveraines. Mais pour le professeur ivoirien Francisco Meledge de l'université de Cocody, ces changements anticonstitutionnels avec violence sont partis de la RDC avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba.
Disons, les propos du professeur Mangou auraient dû venir à la fin pour montrer comment la régulation interconstitutionnelle du pouvoir est maintenant prise en compte dans les relations internationales africaines et régulée par l'Union africaine. Mais je voudrais vous parler, je dirais, de la dynamique du pouvoir en Afrique. Je veux parler de la dynamique du pouvoir en Afrique dans l'esprit de ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnel de gouvernement. Et en répondant à l'interrogation du professeur Mangou sur la question de savoir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, parce que mon intervention va essayer de vous faire comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas particulier à l'Afrique de l'Ouest. Si on reprend la définition, les définitions proposées par la charte de l'Union africaine sur la démocratie, l'état de droit et la gouvernance. Et je vais tenir mon propos en deux parties. Je ne l'ai pas bien organisé, mais en deux parties. La première partie, c'est de dire que la violence en droit constitutionnel est un anachronisme. C'est un anachronisme. La deuxième partie, c'est de vous dire que les changements anticonstitutionnels sont presque irréversibles, mais s'inscrivent dans une dynamique. D'abord, qu'est-ce que c'est que cet anachronisme? N'oublions pas Weber qui nous dit que la violence ne peut pas être détachée ou détachable du pouvoir. Mais c'est vrai que dans l'esprit de Weber, il s'agit de la violence légitime. Donc, au fond, ce que je veux vous rappeler, c'est que là où il y a le pouvoir, il y a forcément la violence. Ça peut être la violence physique. Mais c'est aussi, pour ceux qui ont lu Bourdieu, c'est la violence symbolique. Donc il y a des formes plurielles de violence dans le fonctionnement, dans la naissance et le fonctionnement du pouvoir. Donc ne nous étonnons pas qu'il y ait ces formes de violence. Et si nous ouvrons bien les yeux, nous verrons qu'il y a d'autres formes de violence dans le fonctionnement de nos pouvoirs. Ce que Bourdieu appelle la violence symbolique. Et je pense même d'ailleurs que à chaque fois, même l'hymne national qu'on chante, que vous avez chanté tout à l'heure, c'est une forme de violence symbolique. Au fond, c'est une violence qui vous apprend à être des citoyens congolais et d'éviter des perversions qui vous entraînent vers des formes de rébellion contre votre État, contre votre gouvernement. Mais c'est une forme de violence qui affecte, qui attaque l'esprit, la psychologie, pour vous amener à la rectitude. Donc la violence, elle est consubstantielle, si je reparle à Weber. Mais regardons de près la violence du pouvoir ou la violence dans le pouvoir en Afrique. Demandons-nous, au fond, est-ce que c'est peut-être une sorte de permanence, une sorte de régularité? Mais je vous rappelle, vous les Congolais, les premiers coups d'État en Afrique, quelles ont été les victimes? Lumumba. Donc, ne parlons pas d'Afrique de l'Ouest. La violence vient du Congo. Et l'une des grandes victimes, vous allez accuser les Belges. Mais ce sont les Congolais qui ont fomenté les premiers coups de changement anticonstitutionnel, de coups d'État violents et meurtriers qu'aucun Africain ne peut oublier pour ce Mangou. Et puis il y a eu au Togo le coup d'État contre Sylvanus Olympio. Donc vous savez que lorsque l'Union africaine, lorsque l'OUA est née, les États africains sont nés dans une atmosphère de violence politique contre les dirigeants. Ce n'est pas seulement la violence coloniale, mais c'est la violence postcoloniale et la violence que nous subissons, que certains Africains vont subir à d'autres Africains. Et puis, si vous remarquez bien, quand vous faites l'histoire des coups d'État et des changements de constitutionnels, vous vous rendez compte que les violences de Lumumba jusqu'à Samuel Doé, et même peut-être encore plus récemment, en quoi consistent ces violences? Changer le pouvoir en utilisant la mort, en utilisant l'instrument de mort. Et chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, changement brutal, ça s'accompagnait de la mort. Parce qu'il fallait éliminer celui qui était là. Ou bien, il faut éliminer l'opposant potentiel par la mort. Je pense que regardons avec humilité les évolutions en Afrique, je dirais, et même au Congo. Je rappelle encore au Congo, l'ancien président, comment il s'appelle déjà, votre ancien président? Non, pas Mobutu.
Kabila.
Mobutu est parti par la violence, n'est-ce pas? Kabila père est venu par la violence, et il est parti par la violence et par la mort. Donc, voyez ces formes de recours au changement anticonstitutionnel qui passent par la violence et par la mort. Mais ce que je veux dire, de plus en plus, les Africains deviennent, entre guillemets, civilisés. Ils opèrent les changements anticonstitutionnels, mais ils n'osent pas aller jusqu'à mettre à mort celui qui est au pouvoir. Et donc, si nous regardons l'Afrique de l'Ouest, de ce point de vue, disons-nous, au moins ces gens-là, ils ont été enlevés du pouvoir, mais ils ont été protégés. Et ça, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis que l'Afrique de l'Ouest devrait enseigner au Congo. Voilà. Et donc, il faut opérer les changements, même anticonstitutionnels, mais sans donner la mort. Pas la vie est précieuse. Car la vie est précieuse.
Bokoko, Espebas, Nyata. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengefi. Mon ami Gaël, Miloïdjo, Ya. Le meilleur, je tombe pour une joie à toi à la boule. La vie soit pas ibo mais ça n'a causé là. Nous changeons, nous comme une abocopo, Bobolanda. Baril y a pétrole, Achille Mungo, Chimène Motouari, Michel Mbongo PDG, Félicien Pambou, Tristan Ebanja, Yohan Sibahi. César, Kouka, ouvre-toi, oui, et Toka. DDG, Dragon de la Monnaie, Michael Mwanga, Lebon Dinda Oba, Iya, Pedro Birana, Teste Osenge, Junior, Yigwe, Ursus Moïla, Bokamina, Chakumbae, Kina Bopeto, Chantinin Bobila, Mbaka, Iya. Encore et toujours, il s'appelle Espedas Tokobina. Na décembre, album à Saoudien. Tata, Toma, Kanga, Toma, Kuna, Tata, Wapuna, Iya. Premier ministre, Jesse Mokuyu, Wabi Nono Badiamant, Sergio Nicolas, Jules Thierry Mokoko, Julien Gatier Le Bembe.
Changement anticonstitutionnel des régimes en Afrique. Professeur ivoirien Francis Komelege de l'université de Cocody.
Voilà, qu'est-ce qui nous amène au changement anticonstitutionnel sous toutes les formes? Coup d'État, changement de gouvernement, qu'est-ce qui nous amène à ça? Je ne veux pas célébrer la violence, la mort, mais je pense que c'est notre ignorance de ce qu'est la Constitution. C'est notre ignorance de ce que c'est que le droit constitutionnel. Ceux qui nous dirigent, quel que soit le pays, ils n'ont pas une pleine connaissance de ce qu'est la Constitution. Ils n'ont pas une pleine connaissance de la valeur de la Constitution. Vous savez, quand on dit changement constitutionnel, ce qui est le plus important, c'est quoi? La référence, c'est la Constitution. Donc, quand on a une pleine connaissance, un plein attachement à la Constitution, une pleine considération, parce que si on respecte la Constitution, pour citer Kelsen, et pas que Kelsen, il y a une très grande considération que l'on donne à la Constitution. Et cette grande considération, si nous avons cette grande considération qui est ce grand tabou, je pense que, je dirais, ce grand fétiche sur lequel nous devons veiller, je pense que nous ferons en sorte de respecter la Constitution, de respecter nos institutions et de respecter la démocratie et les droits constitutionnels. Donc nous les enseignants, nous devons travailler à ça. Les hommes politiques, les ambassadeurs de l'Union africaine doivent travailler à ça, à donner du sens à la Constitution. À donner du sens. Mais donner du sens à la Constitution, c'est donner du sens à la démocratie constitutionnelle. C'est donner du sens aux libertés. Donner du sens à la citoyenneté. Et je pense que si nous sommes imprégnés de ça, si nous approprions ces valeurs et ces concepts, nous irons en droit constitutionnel avec beaucoup plus de modération. Et je dirais avec beaucoup plus d'humilité. Donc, l'un des problèmes que nous avons, c'est dire comment faire en sorte que la Constitution, comment faire en sorte que dans nos amphithéâtres, mais c'est déjà fait, mais en ville, dans les marchés, comment faire en sorte que les gens ne croient pas que la Constitution, c'est simplement un bout de papier, mais c'est un instrument de très très grande valeur. Vous savez, les choses de grande valeur, ce ne sont pas forcément les choses qui sont objectivement touchables, palpables. C'est les choses qui sont symboliques. Il faut apprendre à nos concitoyens que les choses symboliques sont des choses très importantes auxquelles nous devons donner de la considération. Parce que c'est la Constitution qui doit réguler le pouvoir. C'est la Constitution qui doit nous apprendre, sans exercer une violence contre nous, une violence physique contre nous, qui doit nous apprendre à bien nous conduire et à mettre en place les institutions, les mécanismes de transmission du pouvoir, les mécanismes de communication entre les institutions du pouvoir. Donc commençons par avoir une pleine connaissance de la Constitution et avoir la considération de la Constitution. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est à propos des dynamiques en Afrique de l'Ouest, des changements anticonstitutionnels et de ce que, qui semble comme irréversible, qui semble comme incontournable. Je ne veux pas justifier ce genre de changement, mais il faut le reconnaître. Si on fait une typologie des États, je n'oserais pas la faire. Mais c'est vrai qu'il y a des régimes qui se présentent comme étant des régimes répressifs, mais qui ne sont pas qu'en Afrique de l'Ouest. Vous savez, je ne dirais pas le nom de ce pays, mais c'est très actuel. C'est l'ambassadeur Mbari de quoi je parle. Il y a des pays dans lesquels, en Afrique centrale, hein, ils ne veulent même pas entendre le mot de gouvernance et de stabilité. Le mot fait peur. Ce mot-là seul fait peur. Et ces pays-là refusent toute manifestation intellectuelle sur leur territoire si vous venez pour leur parler de gouvernance constitutionnelle. En Afrique centrale, pas loin de chez vous ici. Pas loin de chez vous. Mais comme la RDC est grande, et qu'il y a, je crois, 9 États non, autour de vous, bon, mais c'est l'État francophone. Pour vous donner quelques évidences. Voilà. Alors, que dire? Il y a une sorte de renaissance de la violence en Afrique de l'Ouest. Mais cette renaissance de la violence à travers les changements anticonstitutionnels de gouvernement, je veux d'abord qu'on essaie de comprendre quels sont ces mécanismes. Quels sont ces processus qui nous conduisent à ça? Il y a d'abord des processus classiques. Si on prend le cas de la Guinée, qui était et peut-être qui reste toujours un État autocratique, un État qui a où le régime a manipulé la Constitution, je crois que le coup d'État n'est que la résultante de cette violence à l'encontre de la Constitution. Et c'est une conséquence, peut-être qu'on peut regretter, mais c'est une conséquence inévitable. Mais comme le professeur Mangou le dit, il y a d'autres exemples de changement de constitution pour se pérenniser au pouvoir. La seule chose, c'est qu'en Guinée et ailleurs, les militaires ont réussi à contourner les verrous de sécurisation des chefs d'État pour accéder à celui qui exerce le pouvoir et pour mettre fin à son pouvoir. Mais en dehors de cela, essayons de comprendre dans les autres cas. Moi, je ne vais pas faire le procès de la France, de l'Europe. Non, ce n'est pas ce procès que je vais faire. Mais quand vous observez bien, de quoi, de qui vient, je ne cherche pas à justifier, mais essayons de comprendre d'où viennent ces changements. Au Mali, deux coups d'État. En Haute-Volta, Burkina Faso, deux coups d'État. Au fond, ces changements, bien sûr, vous direz que c'est un problème de gouvernance. Mais n'oubliez pas que ces processus-là, dans ces pays, viennent de ce que le terrorisme djihadiste est en train de changer le vécu des populations et en train de changer les formes de gouvernance dans ces États. On est dans des États où il y a, je dirais, des violences de diverses sortes. Il y a la violence du pouvoir politique. Violence pas toujours visible, mais la violence djihadiste oblige les pouvoirs à chercher des ressorts pour s'en sortir. Et je pense qu'il ne faut pas analyser les changements anticonstitutionnels qui sont produits au Mali et au Burkina sans tenir compte de ce processus. Mais il y a aussi le fait que la rivalité géopolitique, on est comme si on était à l'ère de la guerre froide, mais la rivalité géopolitique entre les Occidentaux et les Russes ont un effet sur les changements qui se produisent. Et là, est-ce qu'on doit condamner les Africains, tous les Africains, du fait qu'ils subissent cette double pression des Occidentaux et des Russes dans les pays? En Afrique centrale, vous avez la Centrafrique, qui subit la même chose, la pression des Russes, des Wagner et la pression des Français. Au Mali, pareil. Au Burkina, ça sera pareil. Et Je pense qu'il y a d'autres exemples. Donc il faut comprendre ce processus politique complètement désordonné, difficile à comprendre, qui amène à ce que, après le coup d'état d'un général, c'est le coup d'état d'un colonel, maintenant c'est un capitaine, demain ça sera un soldat. Et donc, ça veut dire que il y a une difficulté de trouver des repères institutionnels, des repères humains pour gouverner nos États. Et ça, c'est un vrai problème auquel nous devons trouver des solutions. Mais nous ne devons pas abandonner ces États, nous ne devons pas continuer à dire « Oui, mais c'est parce qu'elle est terroriste, oui, mais c'est parce qu'elle est française. » Je pense que, encore 5 minutes, oui, j'aurais fini. Nous devons nous dire que le problème se trouve d'abord dans la recherche à l'intérieur de chaque État de modes de gouvernance qui nous imposent la démocratie, qui nous imposent la gouvernance, qui nous impose la démocratie libérale, qui nous impose l'état de droit. Si nous avons dans nos États cette culture de la démocratie, de l'état de droit, nous allons pouvoir trouver les meilleurs ressorts pour en sortir. Mais vous savez très bien que le droit constitutionnel à lui seul ne peut pas se construire à l'interne. Il faut aussi que les organisations internationales, les organisations communautaires puissent aider les institutions nationales à cela. Et c'est en cela que la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union africaine à un niveau un peu plus large, doivent aider les États de façon préventive en cultivant, en propageant la culture de la démocratie dans la conscience des gouvernants, dans la conscience des citoyens, pour qu'on ait une bonne compréhension, une bonne lecture, une bonne connaissance des constitutions à tous les niveaux, de telle sorte qu'on n'ait pas à recourir à la violence extraordinaire. Sinon, il y a la violence quotidienne du pouvoir, qu'on n'ait pas à recourir à des violences extraordinaires pour accéder au pouvoir. Donc, ce que j'ai voulu vous dire, c'est pas, je ne justifie pas les coups d'État, je vous permets de comprendre, mais comprendre pour trouver le meilleur remède pour sortir de ce processus qui nous entraîne vers l'enfer.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi
Le changement anticonstitutionnel des régimes en Afrique.
Jeff, on en vient maintenant au débat entre les professeurs et les étudiants. Est-ce que notre constitution est encore étrangère? Qu'en pensent les constitutionnalistes?
Dans ce débat, Nicolette, les intervenants pensent que la constitution congolaise nous vient de l'extérieur. Elle renferme des inconstances. On écoute les professeurs André Mbata et le doyen de la faculté de droit Jean-Louis Essambo.
Moi, je ne dis pas que cette constitution c'est un greffon sur un peu étranger. Sinon, le droit constitutionnel congolais n'aurait pas de sens. Sinon, ce serait une perte de temps. Cette constitution n'est pas un corps étranger. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le préambule, nous, peuple congolais, l'avons adopté. Ce serait une insulte à tout un peuple que de lui dire qu'il a adopté quelque chose qui est un corps étranger, un greffon sur un corps étranger. Non! Et je suis de ceux qui pensent, je crois que le prof Mélette ne va pas me contredire, cette constitution n'est pas la petite sœur de la constitution française. Donc il faut se garder d'emprunter des hérésies. Et dire que cette constitution, c'est la petite sœur, c'est une hérésie en droit constitutionnel. Ce serait très simple. Prenez la constitution française de 58 telle qu'elle existe aujourd'hui. Comparé avec notre constitution, dites-moi en quoi il est satisfait. Parce que très souvent, nos étudiants empruntent les chemins, les courts-circuits, les chemins. Non. Pour dire que c'est la plus seule de la constitution française, prenez les deux constitutions devant vous comparer les préambules, comparer les titres premiers, comparer les titres deuxièmes, jusqu'aux dispositions finales, et arriver, dites-moi si c'est la pétition. Non, ça, ce n'est pas mon avis. Alors, je réponds en même temps à l'étudiante. Parce que je ne partage pas ce point de vue-là, je ne peux pas vous répondre. C'est notre constitution. Évidemment, la disposition, vous allez trouver dans toutes les constitutions au monde, la constitution ne se limite pas au chapitre sur l'organisation et l'exercice du pouvoir. Parce que c'est semi-présidentiel, non. La constitution, c'est aussi les dispositions fondamentales. La constitution, c'est aussi le titre sur les droits humains. Et constatez très bien que même le Bill of Rights, le chapitre sur les droits humains, il lui vient même avant le chapitre sur l'organisation et l'exercice du pouvoir. C'est pour marquer son importance. Parce que très souvent, quand on discute de la constitution, des constitutions en Afrique, ce n'est pas un reproche que je fais ici, je l'ai fait aussi en d'autres lieux, à Niamey notamment, qu'on ne se limite pas à un seul titre de la constitution pour conclure. Non. Vous avez par exemple les dispositions sur les dispositions intangibles que nous avons. Vous ne trouverez pas dans la soi-disant grande sœur française. Ça n'existe pas. Donc j'invite nos étudiants à ne pas tomber dans ce piège-là. La conscience congolaise, ce n'est pas un greffon sur un corps étranger. Non. Parce que si c'était un greffon sur un corps étranger, j'ai toujours dit que c'était la meilleure conscience que nous avons depuis l'indépendance. Le peuple ne s'est jamais révolté, le peuple souverain. Ce n'est pas parce que moi, un expert, un universitaire, je suis en désaccord sur un point de vue, moi je ne suis pas le peuple congolais. Je vais vous dire, si cette constitution était un greffon sur un corps étranger, mais ce peuple se serait soulevé contre la constitution. Voilà l'argumentation. J'invite nos étudiants à être vraiment critiques. Et c'est la constitution qui a fait le plus de temps. Et elle est inscrite dans la longue durée. Ce n'est pas incorrect, même sur certaines dispositions. Quand on veut toucher aux dispositions, par exemple, sur le mandat présidentiel, regardez comment les réactions dans notre peuple. Non, on ne doit pas toucher. Il y en a même des gens qui vous attribuent que non, ils sont en train de réviser la constitution. Vous voyez un peu ce que ça soulève dans notre population. Qu'on ne touche pas aux dispositions intangibles notamment. Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça? C'est qu'ils tiennent à cette constitution-là. C'est que ces dispositions-là, pour eux, ce n'est pas un greffon sur un corps étranger. Changer les mandats constitutionnels aujourd'hui. Dites qu'il n'y a plus de limitation de mandat. Le président peut rester indéfiniment ou pour 50 ans au pouvoir. Vous allez voir comment le peuple va se soulever. C'est pour dire qu'il a un attachement envers cette constitution qui n'est donc pas un greffon sur un corps étranger. Voilà, je passe à un deuxième point. Le prof Lutumba, je comprends, lui, il est privatiste. Le prof nous dit non, le prof a interpellé tous les constitutionnalistes. Mais le prof dit ceci. Pourquoi est-ce qu'il y a le péril alors que les constitutions existent? Mais prof, ce n'est pas le problème des constitutions. C'est le problème de l'homme. Je vous sais un très grand croyant. Vous allez chaque jour à l'église. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a la Bible parce que tout le monde pêche.
Est-ce que notre constitution est un corps étranger?
Jean-Louis Essambo.
Notre constitution n'est pas une petite sœur de la constitution française. Promulguée en 2006, la France a modifié la sienne en 2008 en empruntant les éléments de notre constitution. Notre constitution n'a jamais été élaborée en Belgique. Dans la rédaction de cette constitution, j'en suis un. Professeur Rochab était là aussi.
Mais quelles sont les causes de l'instabilité des institutions politiques en Afrique? Doyen de la faculté de droit de l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, le professeur Francis Comelège explique.
En RDC, vous vivez une instabilité aux frontières. Et les changements constitutionnels peuvent affecter, effectivement, le territoire, peuvent affecter la population. Mais ça ne se réduit pas à ça.
Et peut-être la solution durable au problème de coup d'État que nous connaissons là.
Vous savez, l'une des causes d'instabilité, c'est la pauvreté aussi. La faim. Ça peut être une cause déjà de changement constitutionnel.
Professeur et ambassadeur centrafricain Kalix Mbari pense que les causes de changement anticonstitutionnel en Afrique sont dues à l'absence de leadership fort et de l'unité face à l'influence extérieure.
Ya vihatia mayele nkati ya moto Mpwete moke moke ya soso la molongo Nkati ya molongo atia bako de nyoso ya la vie Observi la nature vous comprendrez les choses de l'esprit Atia mwave komo nene molingo Ondi miye tiango na moto Yango yoka mwana wanyoyo ya bangkoko Yego la mwana nzebio yo ya banoko
Ya wele tala muka no kongo Wa seto buje bongo Kongo na yo eko mi mongongo Tobo ima ninga pona mbongo
Dina, Dina, Dina Kasi yo kakante mate ya
Nome, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Yawe atia mayele nkati ya moto Mpwete moke moke ya soso la molongo Nkati ya molongo atia bako de nyoso ya la vie Observi la nature vous comprendrez les choses de l'esprit Atia mwabe komo nene bolingo Ondi miye okota mbula bongo Yango yoka mwana wanyoyo ya bangkoko Yego la mwana nzebio yo ya banoko Solo longo la bisu na dogme Ati sabiso oyo ya yo norme
Bolingo to pesa na kaya forme To souki on veut que tu nous formes
Hey Yahweh
Norme,
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 norme, forme,
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 norme,
conforme,
ya
la vie Yango yoka mwana, wanyoyo ya bangkoko Yego la mwana, nzebio ya banoko
Ko, ezwi esika ya mosala Mbeba nelo lenge toko tambola Moto normal, tobengi ye yuma Pofakwa, apesi biso duma
Wili
Kolingyo biko pita obo iku sala Grand prêtre tala biso baketina yo Bana bazoniate Bazoniate Bazoniate
Tambola kanami beko Awa biso onroula mbeba Mbuki mbeko alingi raison Yoka ma réponse
Boy boy go Yom to pom sambo go
Fouini fouini Kinshasa ki pebele Baltouke noye na madame Adja danzaru
doyen de la faculté de droit Jean-Louis Essambo.
Les réflexions ont été faites. Les idées ont été avancées. Il appartient aux uns aux autres de les approfondir. Donc vous êtes rendu compte que aussi bien les intervenants principaux que les intervenants, si je peux les considérer ici, les secondaires, chacun est venu donner un point de vue sur une question. Et à travers cette journée, je crois que les chercheurs en fin d'études en droit ou en troisième cycle et en doctorat devraient pouvoir tirer les leçons pour se fixer les idées sur les recherches futures. Naturellement, vous devez avoir déjà quelques idées sur ce que vous souhaitez faire. Et c'est ça l'intérêt de cette rencontre. J'aime le professeur Mélège, et si je pouvais partager son intervention au groupe auquel le professeur André Mbata, lui-même et moi appartenant, il a autorisé. Professeur, l'idée du droit constitutionnel tribal n'a pas simplement irrité la salle, parce que certains d'entre nous n'y croient pas. Trois collègues, je vais vous transférer le message. Il y en a un qui a dit, Topano, que vous connaissez. Ah, droit constitutionnel tribal, c'est une nouvelle discipline que je dois apprendre. Mon jeune frère, plus jeune que vous, Abdoulaye Soma, a dit, ah, ça vient de lui. Et Janine, qui a osé même... Vous savez, quand on est des vieux, mais les Gérards, il n'a plus de cheveux, les bouchards sont là, les couettes sont là. Quand un ancêtre a parlé, il a parlé. Et apprenez ça. Quand un ancêtre a parlé, il a parlé. Parce qu'il a beaucoup d'informations. Celle-là qui a osé protester, l'ancêtre a dit, mon frère, très belle initiative. Au moins cette fois-ci, il ne vous a pas contredit. Hein. Ah, monsieur l'ambassadeur, vous m'avez promis d'expliquer aux étudiants de faculté de droit comment fonctionne l'Union africaine, comment fonctionne la Commission, comment fonctionne votre département. Chacun de nous maintenant a une idée sur comment les choses marchent. Ce qui ne vous a pas dit, il est tenu au devoir de réserve, c'est un diplomate. Il suivait minute par minute l'organisation des élections congolaises de 2018. Chaque jour. Je ne voudrais pas dire que si l'Union africaine avait envoyé le signal sur le Kinshasa, ça venait de lui, mais probablement qu'il n'aurait pas été très innocent. Maintenant, vous connaissez comment fonctionne cette organisation. Enfin, nos chers invités, Doyen Mélège, Monsieur l'ambassadeur, vous vous êtes rendu compte que l'université de Kinshasa, c'est une université magnifique. Vous vous êtes rendu compte que la faculté de droit est une faculté qui vit. Vous vous êtes rendu compte que les étudiants de la faculté de droit sont des étudiants qui vivent. Et vous partez, me semble-t-il, avec une très très bonne impression de cette faculté, au travers des étudiants, au travers des professeurs, sur les interventions que l'un et l'autre a eu à faire. Aux étudiants, mes très sincères félicitations pour votre participation massive. Je vous promets déjà que le mois prochain, il y aura une activité tout aussi intéressante que celle-ci. Le sujet va être aussi intéressant que celui-ci. Le voici et préparez-vous. La responsabilité pénale des hommes politiques. Des hommes politiques commettent beaucoup d'infractions. Et les professeurs, vos professeurs vont vous dire quel est le degré de cette responsabilité, quelle est la hauteur de cette responsabilité, quelles sont les limites de cette responsabilité et quelles sont les conséquences de cette responsabilité. On va faire en sorte qu'il y ait des collègues théoriciens qui vont également s'affronter avec des praticiens, des juges.
C'est une note très satisfaisante. L'université a trois missions essentielles, l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la communauté. Et je crois qu'au niveau de la recherche, nous avons atteint l'objectif parce que nous avons fait parler les universitaires sur un sujet aussi important et un sujet actuel.
Les initiés ont été accusés d'avoir laissé passer une constitution rédigée de l'extérieur.
C'est pas tout le monde qui comprend et qui doit interpréter la constitution.
Avant de conclure, Niclette, avez-vous quelques annonces à faire?
Nous annonçons pour le mardi prochain l'état des lieux sur l'abolition de la peine de mort en RDC.
Ainsi s'achève Droit et Citoyenneté d'aujourd'hui, qui s'est intéressé au changement anticonstitutionnel des régimes en Afrique. Merci de votre écoute et de rester toujours branché sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.